Théologie scientifique, le Verbe incarné, le 22 février 84, Rimont.
Alors, une petite question à propos de la grâce d'union. Saint Thomas a des affirmations qui, à première vue, sembleraient contradictoires, paraîtraient contradictoires. D'une part, question 6, article 6, il affirme que l'union est l'essai personnel qui est donné dans la nature humaine. D'autre part, il prétendait que l'union n'est pas Dieu, car elle est quelque chose de créé. Article 7. Le père Philippe de la Trinité y a vu un problème dont l'unique solution est donnée, selon lui, par la notion de grâce substantielle d'union. Pour ce faire, il fait état de la lumière de gloire, laquelle n'est ni l'essence divine, ni une spécies créée, faisant écran entre l'intelligence du bienheureux et l'essence divine. Elle est cependant un quo par lequel cette intelligence est rendue capable de voir Dieu. De même, écrit-il, la grâce créée d'union n'est ni le Verbe subsistant, ni, c'est évident que ça ne peut pas être le Verbe subsistant, ça c'est bien évident, puisque le Verbe subsistant, il n'est pas modifié par la grâce d'union. Donc il ne peut pas être la grâce d'union. Ça, c'est sûr. La grâce d'union n'est ni. C'est par l'aspect négatif qu'on peut mieux le voir, hein, comme toujours, quand il s'agit d'un mystère. Il s'agit d'un mystère. C'est ça qu'il faut bien se dire. Donc il ne faut pas chercher l'évidence. Il s'agit tout simplement de voir ce que ça n'est pas. Donc la grâce créée d'union n'est ni le Verbe subsistant, ni une existence, ni une nature. C'est bien évident. Se présentant comme un absolu entre la nature assumée et le Verbe, mais bien une miraculeuse réalité créée. C'est pas une miraculeuse réalité, moi je suis pas du tout d'accord. C'est la grâce d'union, c'est une conséquence. C'est ça qu'il faut voir, c'est une conséquence du mystère du Verbe qui assume la nature humaine. La nature humaine est dans un état nouveau, elle est assumée par le Verbe de Dieu, et à partir de là, je dis grâce d'union. Dieu ne crée pas une grâce d'union. Alors, elle est créée, elle est quelque chose de créé, comme dit saint Thomas, c'est sûr, parce qu'elle est une conséquence. Le mystère divin n'est jamais une conséquence, il n'est que principe. Donc tout ce qui est conséquence est créé. C'est très simple, mais il n'est pas objet d'un acte créé. D'une action de création. C'est ça qui est toujours, quand on parle c'est créé, on pense tout de suite à l'action de Dieu qui crée. Non, c'est une conséquence, la grâce d'union. Réalité créée, donc alors, oui. Le Verbe, ni la nature assumée, et le Verbe. Mais bien une miraculeuse réalité créée grâce à laquelle, cette nature est assumée de manière hypostatique. Non. C'est pas ça, là. Pour moi, pas du tout. Substantiel par le Verbe. Parce que c'est pas un quo. Le quo est un principe. Ce par quoi. Tandis que la grâce d'union est une conséquence. Oui.
C'est la volonté divine elle-même. Alors c'est un ce par quoi, mais qui va
tout créer. Mais non, c'est pas créé du tout.
C'est avant tout la volonté divine.
Oui, mais là, c'est une cause. Hein. C'est... La grâce d'union n'est pas la volonté divine. C'est l'effet de la volonté divine. Vous voyez. Et c'est pour ça que je crois, il me semble bien que si nous regardons attentivement, alors y a-t-il vraiment contradiction? C'est ça où il faut regarder. Parce que y a-t-il vraiment contradiction? Moi je veux bien regarder ça, mais alors nous revenons en arrière, c'est un petit peu. Mais je comprends, il faut poser les questions. Hein, et je comprends très bien, si vous avez tout à fait raison, de regarder le Père Philippe de la Trinité, et qui est un excellent Père maintenant qui est dans le ciel et qui voit la vision béatifique. Que j'aime beaucoup, c'était un grand ami, le Père Philippe de la Trinité. C'était un grand ami carme, n'est-ce pas? Et qui était merveilleux.
Il faut lire le Père Philippe de la Trinité face au Père Teilhard. Alors vous comprenez le Père Philippe de la Trinité, n'est-ce pas ? Parce que c'est là où sont des racines des particulièrement développées. Alors ce Père Philippe de la Trinité était un excellent carme, très saint homme, qui est mort à Notre-Dame de Vie, qui a passé la dernière année à Notre-Dame de Vie. Et quand je vais à Notre-Dame de Vie, je suis toujours dans la cellule où il est mort, parce que je suis arrivé, c'est curieux. La première fois que j'étais à Notre-Dame de Vie, c'était un an après sa mort, l'anniversaire. Il m'a dit, c'est le Père Philippe de la Trinité qui vous envoie. J'étais très, très honoré, parce que je l'aimais beaucoup, et que je considère que c'est vrai, que le Père Philippe de la Trinité avait un souci doctrinal. Si j'ai été chez les Carmes plusieurs fois faire des petites conférences au point de vue doctrinal, c'était le Père Philippe de la Trinité. Donc on s'entendait parfaitement, on avait une très grande union entre nous. Je l'aimais beaucoup. Donc, question 6, article 6, d'une part, il affirme que l'union est l'essai personnel qui est donné dans la nature humaine. Je veux bien regarder tout de suite avec vous, si vous voulez, pour que nous reprenions cette question, question 6, article 6. C'est important, je suis tout à fait d'accord qu'il faut essayer de saisir ça. La nature humaine a-t-elle été assumée par le moyen de la grâce ? Je relis simplement le corps de l'article pour qu'on voit tout de suite. Dans le Christ, il y a la grâce d'union et la grâce habituelle. Donc, saint Thomas tout de suite distingue les deux. Ponitur gratia unionis, gratia habitualis. Donc, il distingue les deux. Regardons toujours la perspective dans laquelle saint Thomas place ces distinctions. Qu'il s'agisse donc de l'une ou de l'autre, on ne peut concevoir la grâce comme intermédiaire dans l'assomption de la nature humaine. La grâce d'union, en effet, c'est l'être personnel lui-même qui, dans la personne du Verbe, a été donné. Vous voyez, donc, c'est bien ce que gratia, donc, unionis, est ipsum esse personale, quod gratia divinitus datur, nature humane, in persona verbi. Dans la personne du Verbe, puisque l'assomption se fait dans la personne du Verbe, et qu'elle se termine dans la personne du Verbe, la nature humaine est donc dans un état particulier parce qu'elle est assumée. Et cet état particulier de la nature humaine par rapport au Verbe, c'est ce que nous appelons la grâce d'union. Oui.
La différence de la grâce habituelle, qui est un accident et un accident.
Oui, ça c'est autre chose.
Elle est une pure relation.
Oui, la quoi ?
La grâce d'union.
Ah mais oui,
elle est une pure relation.
Mais c'est sûr, c'est pas autre chose. C'est pas la grâce d'union habituelle. La grâce habituelle, c'est pour ça que saint Thomas distingue ici la grâce habituelle qui qualifie la nature humaine et la grâce d'union qui est une pure relation. C'est une conséquence. En fait, c'est une conséquence. Exactement comme une relation. Une relation ne se comprend qu'en fonction de son fondement. Vous voyez ? Alors, du fait même que la nature humaine est assumée, elle est dans un état particulier par rapport à Dieu. Et c'est ce qu'on appelle la grâce d'union. Alors, vous voyez, donc ici, on le voit. Alors, l'opposition avec la question, donc. D'autre part, il prétendait que l'union n'est pas Dieu, c'est bien évident, car elle est quelque chose de créé, puisque c'est une relation. Il n'y a pas de contradiction. Moi, je ne vois pas du tout de contradiction. Oui. Je ne vois pas de contradiction du tout entre les deux. Je n'ai pas en présence cet article du Père Philippe de la Trinité, mais je ne vois pas d'opposition entre les deux. Parce que des deux côtés, on voit tout simplement, c'est quelque chose de créé, parce que c'est une relation, justement. Comme la grâce habituelle est quelque chose de créé. Toutes les deux sont quelque chose de créé. Mais la différence, c'est que l'une est participation à la nature divine, comme un effet direct de l'union hypostatique. Et la grâce d'union, c'est l'union hypostatique que je regarde du côté de la nature en tant qu'elle est assumée.
Donc est-ce qu'on peut dire que la grâce habituelle, la grâce d'union, n'a aucune causalité dans l'ordre formel, ni efficient.
Aucune causalité. Elle n'est pas cause. Non, elle n'est pas cause.
À la différence de la grâce habituelle qui est cause dans l'ordre formel.
Non, la grâce habituelle. Ah oui, si vous voulez. Elle qualifie. Oui, il vaut mieux dire qu'elle qualifie, qu'elle est cause, voyez. Elle qualifie. Oui, parce qu'elle qualifie la nature humaine du Christ et elle permet à la nature humaine du Christ d'opérer. Donc elle est cause du côté des opérations. Moi, je veux mieux dire qu'elle est cause du côté des opérations, cause formelle, vous voyez. Elle l'est, c'est la causalité formelle au sens fort, puisque elle ennoblit, elle divinise, elle déifie la nature humaine du Christ formellement. Tandis que l'union hypostatique déifie radicalement. C'est la différence. Continuons. Si celui qui a posé la question s'il y a des difficultés et que ça lui fait une petite difficulté, qu'il me trouve autant que possible pour pouvoir régler cette question. Bon, alors nous allons tout de suite, article 9, le Christ possédait-il la plénitude de la grâce? Et là, au fond, ce que vous avez dit, c'est, dans cette question, c'est très important cet article, puisque cette plénitude de la grâce qui va faire que le Christ en paix. Le rôle que Jésus va jouer dans le corps mystique repose sur cette plénitude. Alors cette plénitude de grâce est une conséquence de l'union hypostatique. Vous voyez ? Puisque la grâce habituelle est l'effet direct de l'union hypostatique. Comme saint Thomas l'a souligné. Alors, plénitude de grâce appartient-elle en propre au Christ ? Ce qui appartient en propre à quelqu'un ne convient qu'à lui seul. Objection première. Mais la plénitude de grâce est attribuée à d'autres qu'à Jésus. C'est ainsi que dans saint Luc, l'ange salue la Vierge Marie en ces termes « Je vous salue pleine de grâce ». Et nous lisons dans les actes. Oui. Pardon, qu'est-ce qu'il y a ? On a vu, oui, je me suis trompé. Le Christ possédait la plénitude de grâce. Et les deux questions se tiennent. Ainsi qu'il a été dit dans la seconde partie, les vertus dérivent de la grâce. Mais le Christ n'a pas possédé toutes les vertus, puisqu'il n'avait, nous l'avons vu, ni la foi, ni l'espérance. La grâce ne se trouve donc pas en lui, en plénitude. Ça, c'est très gros. Hein. C'est très gros comme objection. Quand on n'a pas d'autres objections, bon, c'est ce genre d'objections. Il est écrit dans saint Jean, nous l'avons vu, plein de grâce et de vérité. Alors, posséder en plénitude quelque chose, c'est en avoir la jouissance totale. Ça, c'est intéressant comme manière de poser le problème, une manière de posséder. Hein. Plene dicitur aberi. Est totalitaire et perfecté abetur. Qu'une chose est possédée en plénitude, ça rejoint presque le maxime étalé. Hein. Il faudrait se demander quelle différence y a-t-il entre les deux. C'est intéressant. Le totalitaire est perfecté à Beto. Ce qui est possédé totalement et parfaitement. Cependant, cette totalité et cette perfection peuvent se rapporter au degré d'intensité selon lequel une chose est possédée. C'est ainsi que l'on dit de quelqu'un qu'il possède la blancheur en plénitude lorsqu'il la détient à son plus haut degré. Ah, ça, c'est le maximé. Hein. Vous voyez ? À son plus haut degré. Ou bien, alors il y a la possession plénière et la possession plénière de quelque chose qui est à son suprême degré. Ou bien elles peuvent exprimer la puissance de rayonnement de cette même chose. Ainsi, l'on possède pleinement la vie quand on la bénéficie de tous ses effets et de toutes ses opérations. Sous ce rapport, l'homme est un vivant parfait à la différence de l'animal ou de la plante. Les trois degrés de vie. Vous voyez la question de l'extension et de l'intensité. La distinction est là. La question de l'intensité de l'extension. L'extension est toujours un peu matérielle comparativement à l'intensité. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que saint Thomas la met en premier lieu. Or, que l'on se place à l'un ou l'autre point de vue, il est exact que le Christ a eu la plénitude de la grâce. Il a eu tout d'abord au plus haut degré selon lequel il est possible de la posséder. Donc, c'est le maxime étalé, ça. Je crois qu'on peut dire que c'est Maxime est allé. Et cela tient premièrement à ce que l'âme du Christ était à proximité de la cause de la grâce, c'est le même raisonnement qu'il a fait au point de départ, ainsi que nous l'avons déjà dit en effet, plus un être soumis à l'action d'une cause est à proximité de celle-ci, plus il reçoit son influence. Et puisque l'âme du Christ est plus intimement unie à Dieu que toutes les créatures rationnelles, elle se trouve de la manière la plus parfaite
sous l'influence de sa grâce. Ça, c'est facile à comprendre. La proximité de la nature humaine du Christ par rapport à la cause principale de la grâce. La cause principale de la grâce, c'est la très sainte Trinité. Or, en raison de l'union hypostatique, la nature humaine du Christ est dans une proximité par rapport à la source de toute grâce, le Verbe, qui ne fait qu'un avec le Père et avec l'Esprit Saint, dans une proximité la plus grande qui puisse être, puisque c'est une union personnelle. Or, nous avons vu que cette union personnelle est la plus grande des unions qui puissent exister. Je dis union, pas unité. Puisque entre le Verbe et le Père, c'est l'unité. Tandis qu'entre la grâce, entre la nature humaine du Christ et le Verbe, c'est l'union. Parce que vous avez vu, vous savez, ce petit texte particulier, assez joli du reste. En second lieu, cela tient à la nature de l'œuvre que l'âme du Christ avait mission de produire. Il lui fallait en effet recevoir la grâce de manière à pouvoir en quelque sorte la diffuser sur les autres. Dans ce but, l'âme du Christ devait avoir la grâce à son plus haut degré, comme le feu qui, étant cause de la chaleur des autres corps, possède celle-ci au maximum. Sicut ideo portuit causa caloris in omnibus maxime calidus. Donc vous voyez maxime. D'autre part, sous le rapport de sa puissance de rayonnement, l'extension, la grâce se trouvait encore en plénitude dans le Christ, car il la possédait selon tous ses effets et toutes ses opérations. La grâce lui était donnée comme un principe universel commandant toute la catégorie des êtres qui en sont favorisés. Virtus autem principi primi alicuius generis universaliter se extendit ad omnes effectus ilius generis. La puissance du premier principe dans un genre donné s'étend universellement à tous les effets inclus dans ce genre. C'est ainsi que le soleil, qui selon Denis est cause universelle de la génération, déploie sa puissance sur tout ce qui a trait à la génération. De même, la grâce du Christ comportait cette plénitude qui la faisait s'épanouir selon toutes ses virtualités, vertus, dons et autres effets du même genre. Donc vous voyez le double raisonnement de saint Thomas. Le raisonnement de la proximité par rapport à la cause. Ça, le plus intéressant. Alors là, je touche le maximé dans l'ordre de la grâce. La grâce du Christ a une intensité, une plénitude telle qu'il ne peut pas y avoir une grâce plus parfaite que celle-là. Parce qu'elle est là toute proche de sa source. Et du côté de l'extension, alors c'est plus la fonction en quelque sorte, le rapport de sa puissance de rayonnement, la grâce se trouvait encore en plénitude. Alors, ce qu'on verra ensuite, c'est le rôle du Christ comme tête. Alors ici, il le prend comme principe. Alors, vous comprenez que c'est très délicat cette question-là, puisque le Christ est cause instrumentale de la grâce, par son humanité. Mais il est cause instrumentale comme ami. Et c'est pour ça qu'on peut le regarder comme jouant le rôle de principe universel par rapport à toute la grâce. Oui. Le véritable principe universel de toute la grâce, c'est la très sainte Trinité. Et le principe universel instrumental de la grâce, c'est Jésus, c'est l'humanité sainte du Christ. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il ait la plénitude de grâce. C'est pour ça que nous disons « de sa grâce, nous avons tous reçu ». De sa plénitude de grâce, nous avons tous reçu. Donc, notre grâce, c'est une grâce trinitaire par le moyen de la grâce du Christ. C'est donc une grâce chrétienne. Elle vient de la grâce du Christ et elle est en même temps trinitaire. Parce que toute grâce est nécessairement trinitaire.
Vous voyez, alors le raisonnement de saint Thomas, il faut bien le saisir à l'intérieur même de ce point de vue d'instrumentalité. Mais il donne le raisonnement comme si la grâce du Christ était cause principale, hein, cause première, comme quasi-cause principale. Elle n'est pas cause principale, elle est cause instrumentale, mais elle n'est pas comme un instrument qui serait purement serviteur, c'est comme un ami. C'est très important ça, parce que ça fait comprendre l'instrumentalité de la nature humaine du Christ, qui n'est pas du tout l'instrumentalité telle qu'on pourrait la comprendre d'une façon un peu matérielle. C'est une instrumentalité d'un caractère unique. Il est le Fils bien-aimé en qui le Père a mis toutes ses complaisances. Et parce qu'il est le Fils bien-aimé en qui le Père a mis toutes ses complaisances, il est, par son cœur, oui, pour toute la question de la théologie du cœur du Christ, hein, il est, par son cœur, quasi cause principale de toute grâce et de tout amour et de toute lumière. Mais il est bien cause instrumentale. Il faut maintenir les deux. Il faut toujours affirmer les deux. Parce qu'autrement, vous ne comprendriez plus que le Christ est, dans sa causalité quasi principale, est instrument de la très sainte Trinité. Non. Je crois qu'il n'y a pas de difficulté. Ce qui est intéressant, c'est de voir les deux raisonnements, le raisonnement double, et voir bien les deux raisons particulières qu'il donne lorsqu'il prend la proximité. En second lieu, cela tient à la nature de l'œuvre que l'âme du Christ avait mission de produire. Il fallait en effet recevoir la grâce de manière à pouvoir en quelque sorte la diffuser sur les autres. Vous voyez que ce second raisonnement est très proche de la seconde raison. Très proche. Alors, quelle différence voyez-vous, je vous pose la question, entre cette seconde raison et, d'autre part, quand je fais la distinction entre intensité et extension, ça on voit très bien. Vous voyez que dans le premier raison, saint Thomas donne deux raisons. La première, c'est la proximité, l'intensité. La seconde, et c'est intéressant parce qu'il aboutit au maximé, la seconde raison se prend du côté de l'œuvre. Secondo, ex comparationeius ad effectum. Vers l'effet. À cause de l'œuvre que l'âme du Christ avait mission à produire. Il lui fallait en effet recevoir la grâce de manière à pouvoir en quelque sorte la diffuser sur les autres. Dans ce but, l'âme du Christ devait avoir la grâce à son plus haut degré, comme le feu. En réalité, il n'est pas le feu, puisqu'il est cause instrumentale. Comme le feu qui, étant cause de la chaleur des autres corps, procède celle-là au maximum. Alors, quelle différence voyez-vous ? C'est intéressant. Parce que c'est assez subtil. Hein. Quelle différence voyez-vous entre cette seconde raison que donne saint Thomas et d'autre part sous le rapport de sa puissance de rayonnement ? La puissance de rayonnement, c'est les effets. Alors ça, c'est l'extension. Alors, quelle différence voyez-vous ? Qu'est-ce qu'il y a ?
La puissance de rayonnement, là.
La puissance de rayonnement, c'est l'extension.
Pas choix. La deuxième partie de l'article ?
Oui, la deuxième partie.
Pas l'extension en lui, c'est-à-dire que la grâce qui est d'ordre substantiel a une extension parfaite en lui au sens par rapport aux vertus théologales, aux dons, au charisme.
Ah, je vois, j'avais dit beaucoup plus, la puissance du premier principe qui part tellement par rapport à lui.
Parce qu'il le dit à la fin, il prend tout, c'est extendite et
de même, la grâce du Christ comportait cette plénitude qui le faisait s'épanouir selon toutes ses virtualités, vertus et dons autres, et selon de nous. Comme le savez, je crois que c'est plus l'extension et le rayonnement du Christ. Par rapport à l'extension, c'est que Christ est source de toute grâce. Alors, quelle différence voyez-vous ? Vous auriez pris par rapport à lui purement intérieur, voilà, par rapport à lui. Et de l'autre côté, par rapport à l'effet.
Il rayonne sur toutes nos puissances.
C'est les deux. C'est lui et les autres. Alors, moi, j'aimerais que vous puissiez préciser. C'est pas commode, hein.
J'aimerais que vous puissiez préciser la différence qu'il y a, voyez, quand Saint-Thomas reprend, reprenez le point de départ. Or, que l'on se place à l'un ou l'autre point de vue, et l'un ou l'autre point de vue, c'est bien les deux aspects. Cependant, cette totalité, cette perfection peuvent se rapporter au degré d'intensité selon lequel une chose est possible. C'est ainsi que l'on dit que quelqu'un qui possède la blancheur en plénitude, lorsqu'il la détient, a son plus haut degré. Donc c'est le degré d'intensité, ça je crois. Degré d'intensité à son plus haut degré. C'est le maxime. Le maxime étalé dans l'ordre de la grâce. Il le tient dans son... Ça c'est l'intensité. Je crois qu'on ne peut pas nier. Hein ? Vous êtes bien d'accord ? Bon. Ou bien elles peuvent exprimer la puissance de rayonnement de cette même chose, ainsi que l'on possède pleinement la vie quand on bénéficie de tous ses effets. Alors, puissance de rayonnement, il ne prend plus le point de vue du maximé, c'est le rayonnement, c'est l'extension. L'extension par rapport à lui-même, je suis tout à fait d'accord, par rapport à la nature humaine, et extension par rapport à tout le reste. Il est comme le soleil. C'est tout ça. Donc c'est le point de vue de l'extension. On ne dira plus maxime étalé à ce moment-là. On dira tout simplement, donc il est principe. Principe d'extension. Cause. Quasi-cause principale.
Oui. Est-ce que la distinction de l'article ne serait pas plutôt être et vie, dans la mesure où être, c'est ce qui est l'avéré, ce qui est possédé, et la vie, c'est ce dont on jouit. Donc le Christ, c'est la seconde, le second membre de la distinction, c'est la, c'est le côté de la vie, de la jouissance. Ça correspond au début de l'article.
Oui, mais alors il y a les deux raisons de l'application. Comment comprendre pour nous ce maximum?
La sous-distinction, c'est du côté de l'être. L'être, comme par rapport à lui-même.
Alors, mais qui est vie?
Non. Vie, c'est la présence.
C'est non, ici. Oui, mais c'est moi ce que je veux saisir. Ah oui, alors vous diriez l'être.
L'être, la vie, c'est l'être de l'être.
Oui. Est-ce que c'est l'être? C'est l'intensité. Est-ce qu'il ne faut pas essayer de trouver du côté de l'intensité deux aspects? Pour maintenir cette distinction, qui je crois est la première distinction que l'on apprend, en prenant l'application ensuite. C'était très nettement le maximum. Vous voyez, ce qui m'intéresse ici, c'est de voir que ça se termine par le maximum. L'exemple qu'il prend pour illustrer. Alors, il ne l'applique pas directement au Christ, il l'applique par un autre exemple. C'est pour montrer la plénitude. Hein. En fond, nous voulons montrer la plénitude de la grâce, du côté de l'intensité, du côté de l'extension. Les deux raisons qu'il prend, hein, si on les prend, si on les reprend, il a tout d'abord au plus haut degré selon lequel est possible posséder. Et cela tient premièrement à ce que l'âme du Christ est à proximité de la cause. Ça, c'est facile à comprendre. Proximité de la cause, c'est donc qu'il est dans une intensité unique parce qu'il est le plus proche de la cause principale. Donc, proximité de la cause principale, qui est la très sainte Trinité. Donc ça, c'est net, le premier argument. Deuxième argument, en effet, cela tient à la nature de l'œuvre que l'âme du Christ avait mission de produire. Il lui fallait en effet recevoir la grâce de manière à pouvoir en quelque sorte la diffuser sur les autres. Donc, c'est du côté de l'effet. Hein, c'est du côté de l'effet, puisque c'est l'œuvre qu'il regarde. Donc, c'est bien le point de vue de l'effet. Dans ce but, l'âme du Christ devait avoir la grâce à son plus haut degré, comme le feu. Alors, je crois que c'est l'intensité du côté de l'effet. Et ici, c'est le côté de l'extension. Réfléchissez bien, il me semble bien que du côté de l'intensité, saint Thomas recherche la première raison, la proximité, ça c'est très simple. Et la seconde raison, vous voyez, on pourrait dire a priori, a posteriori, si vous voulez, comme raisonnement. Le raisonnement a priori, et je pars de la cause, il est dans une telle situation qu'il est tout proche de la cause.
est tantôt proche de la cause, il est dans cette proximité unique, et donc il y a une plénitude de grâce. Et le second raisonnement pour essayer de comprendre le maximé de cette grâce, c'est de regarder la mission même du Christ. Alors, la mission même du Christ, c'est d'être celui qui va être responsable de toute grâce. Et alors c'est du côté de l'intensité de ce rôle qu'il va jouer, l'effet. Tandis qu'ici alors, c'est du côté de l'extension, du rayonnement. Le rayonnement fait que, au fond, c'est toujours l'intensité et l'extension, je crois. Et c'est ça qui me semble important, c'est de trouver à l'intérieur de l'intensité deux raisonnements. Alors est-ce qu'on pourrait dire être et vie ? Je reviens à votre distinction. On pourrait dire être et vie, c'est évident que l'intensité est du côté de l'être. L'extension est du côté de la vie. L'exemple que saint Thomas prend, c'est les trois degrés de vie. Vous voyez ? Les trois degrés de vie, il prend les trois degrés de vie. Mais les trois degrés de vie, c'est l'extension de la vie. C'est que la vie s'étend de cette manière. Ce n'est pas l'intensité.
Ce dont on joue, la vie, donc, le deuxième point de vue, c'est le Christ jouit pleinement de la grâce, et le premier point de vue, c'est oui. Le Christ a vraiment la grâce en lui. C'est ça, donc l'extension, c'est le plus du côté de la jouissance.
Oui, la jouissance, mais le rayonnement. Et c'est pour ça que je crois que c'est vraiment l'extension. C'est le rayonnement de la grâce. C'est déjà le début de la gloire, si vous voulez. La gloire, c'est le rayonnement, c'est ce point de vue-là, de l'extension. Tandis qu'il me semble que les doubles raisons de l'intensité, on en a une qui se prend du côté de la cause et l'autre du côté de l'effet. C'est que l'intensité peut se voir de deux manières, du côté de la cause et du côté de l'effet. La cause, très bien, c'est d'être déjà vu. Du côté de l'effet, c'est que de fait, le Christ a comme mission d'être celui qui est source de toute grâce. Alors il y a cette intensité, parce que celui qui est source doit posséder éminemment tout ce qui est dans les effets. Donc il doit le posséder maximé. Alors vous retrouvez, vous voyez, le maximé qui est toujours lié à la causalité. La causalité de l'effet, du rayonnement. De pas du rayonnement, mais de la causalité efficiente. Le maximé d'aller dans un genre donné, cause. Et alors on prend par le point de vue de l'effet, puisqu'il doit jouer ce rôle, cette mission, il doit nécessairement avoir cette plénitude, ce maximé. Il me semble que c'est le double raisonnement. A priori, par la cause, a posteriori, par l'effet. Et le troisième raisonnement, alors se prend, lui, non plus de l'intensité, mais du côté de l'extension, du rayonnement.
C'est peut-être plus au niveau de l'intensité de l'effet, on rejoindrait ce que disait Frère Henri, c'est plus intérieur.
Oui.
C'est la capacité, c'est la
Ça, on peut discuter parce qu'au fond, l'effet du Christ, c'est la mission du Christ. La mission du Christ regarde plus les autres. Tandis qu'au contraire, le rayonnement regarde lui, sa nature humaine et les autres. Moi, je mettrais dans le rayonnement l'extension des deux.
Est-ce qu'on ne peut pas regarder la mission du Christ, le Christ dans sa personne, par rapport à sa mission, mais seul qu'est le Christ pour sa mission.
Oui.
Vous voyez ? Oui. Donc, on regarderait quand même l'aspect de sa capacité par rapport à produire l'effet, mais plus dans ce qu'il est lui-même, en tant qu'il est capable de produire cet effet.
C'est évident, en tant qu'il est. C'est pour ça qu'il est maximé.
Oui.
C'est ça. Par rapport à lui-même.
C'est ça.
Oui, c'est par rapport à lui-même. C'est la plénitude de grâce, c'est lui-même. Mais cette plénitude de grâce, dans son intensité, je la regarde de deux manières. Je peux la regarder a priori par rapport à la cause, d'où il vient. A posteriori, par rapport aux effets. Oui, c'est dans ce sens-là que je dis, c'est le double regard de saisir cette plénitude. Du côté de l'intensité de cette plénitude, c'est-à-dire maximé talé. Tandis que de l'autre côté, c'est le rayonnement. Le rayonnement est plus extérieur, c'est forcé. C'est plus extérieur. Mais ce rayonnement, il est par rapport à lui, c'est sûr, et il est par rapport aux autres.
Le rayonnement, c'est d'une certaine manière l'exercice de la mission.
C'est l'exercice de la mission, si vous voulez. Tandis que là, c'est l'intensité de la mission.
Là,
ça joue bien. Du côté de la causalité, vous pouvez regarder les deux. Oui.
Il y avait un problème qui avait été soulevé au cours de la traduction du commentaire de Saint-Jean sur la quid pertinet à rationem gratier.
Oui, oui.
Alors, ça se rapporterait à quel.
C'est à quel propos de Saint-Jean de quel.
La plénitude de grâce du Christ.
Oui,
et
oui.
Alors, saint Thomas commente en disant que le Christ a la grâce, a une grâce telle qu'elle possède tout ce qui convient
à la raison de grâce.
Alors, ça conviendrait à quelle
à l'intensité.
Le premier.
Ah, ah oui. Ça, tout à fait, c'est le maximé. C'est le maximé, c'est le raisonnement de Saint-Thomas, tout le temps du maximé. Vous voyez, il y a une chose très... Au fond, c'est une des arêtes de Saint-Thomas, constant, hein, la quarta vina. Le maximé. Hein. Et quand certains disent ça, c'est Saint-Thomas qui assume le néo-platonisme. Le maximé, c'est un aristotélisme. Alors, que c'est de l'Aristote, c'est le seul lieu où Saint-Thomas renvoie Aristote. Parce qu'il y a des prévus qu'on dirait que c'était du néo-platonisme. Il avait l'instinct de prophète, Saint-Thomas, qui est du prophète, c'est ça. Il savait bien ses commentateurs faisaient ça. Parce que là, il frôle. Hein. Il est sur la crête. Mais il va sur cette crête en aristotélicien.
Parce que la crête est néoplatonicienne, il faut qu'il fasse intervenir Aristote pour la sauver.
Oui, exactement. Mais oui, mais pour montrer qu'il est parfaitement aristotélicien. Et que c'est la manière dont Aristote a lui-même assumé Platon. Alors, la réponse à la première réflexion. La foi et l'espérance sont des effets de la grâce qui impliquent une certaine déficience en leur sujet. Car la foi a pour objet ce que l'on ne voit pas et l'espérance ce que l'on ne possède pas. Il ne fallait donc pas que le Christ, qui est l'auteur de la grâce, connût les déficiences inhérentes à la foi et l'espérance. Mais tout ce qu'il y a de perfection dans ces deux vertus se trouvait d'une manière plus excellente encore dans le Christ. Ainsi le feu, il aime bien le petit exemple, hein, ainsi le feu ne possède pas tous les modes imparfaits de chaleur qui tiennent à la défectuosité du sujet, mais seulement tout ce qui relève de la perfection même de la chaleur. Quid pertinet,
perfectionnel,
c'est la ratio. C'est la ratio.
Du côté de l'intensité.
Perfectionnel, caloris.
Alors que la ratio est du côté de l'intelligibilité.
Ça. Oui, mais c'est l'intensité quand même, c'est le maximum. S'il tient, il a la raison parfaite, la raison parfaite de la grâce, il a l'intensité la plus parfaite de la grâce. Oui, les deux se tiennent. Les deux se tiennent. Donc, voyez bien la réponse. Ça, c'est du côté de l'extension. Hein. C'est du côté de l'extension. Il n'a pas la plénitude, puisqu'il n'a pas la foi et la charité, qui sont des effets directs. Alors, pas du tout. L'effet de la foi et de l'espérance ne viennent pas de la plénitude de la grâce du Christ, parce que justement, la foi et l'espérance impliquent une certaine imperfection. Et que comme il a la grâce d'une façon éminente, ses effets imparfaits ne viennent pas en lui. Et ne peuvent pas venir en lui. Je crois que ça n'a pas de difficulté, mais c'est important, parce que ce sont des objections très actuelles. Vous voyez, c'est la différence, je crois, entre celui qui conçoit la perfection du côté quantitatif, il faut tout avoir. Ou celui qui conçoit la perfection d'une façon éminente. Posséder d'une façon éminente la perfection ne veut pas dire posséder toutes les perfections matérialitaires. Ça veut dire les posséder d'une façon éminente. Il possède la grâce d'une façon éminente, et donc il possède par le fait même tous les effets de la grâce, éminemment. Et les effets qui impliquent une certaine imperfection ne sont pas présents. Deuxième objection. Nous savons en outre que la grâce se divise en opérante et coopérante. Donc ça présuppose le traité de la grâce. Mais la grâce opérante, c'est celle qui justifie l'impie. Or, le Christ n'a pas à être justifié parce qu'il n'a jamais connu le péché. Le Christ n'a donc pas la plénitude de la grâce. Ça, c'est un peu casse-pied. Hein. Parce que c'est... Alors, deuxième réponse à la seconde objection. Il appartient à la grâce opérante de produire la justification. Mais qu'elle justifie un impie, cela lui est accidentel.
parce qu'il est la grâce, et provient de ce que le sujet justifié se trouvait en état de péché. L'âme du Christ a donc été justifiée par la grâce opérante, en ce sens que celle-ci l'a rendue juste et sainte dès le premier instant de la conception, mais non pas en ce qu'elle l'aurait justifiée du péché. Toujours la même chose. Vous regardez quelque chose d'accidentel et non pas d'essentiel. Donc la ratio de la grâce, hein, pour distinguer ce qui est nécessaire et ce qui est accidentel. Ce qui provient du sujet, la condition du sujet, ou qui et non pas de la raison de la grâce. Il n'est pas impliqué dans la grâce que la grâce justifie un impie. Il est impliqué dans la raison de la grâce que la grâce justifie et sanctifie. Mais elle justifie, elle sanctifie un pécheur, alors à ce moment-là, elle le justifie à partir de son péché.
Il ne faudrait pas plutôt remplacer simplement justifier par sanctifier.
Oui, je suis d'accord dans le langage. Mais justifier dans le sens très éminent de justifier, nous pensons justement justifier dans le sens toujours par l'impie. Justifier par rapport aux yeux de Dieu, c'est d'être saint. Oui, c'est d'être le juste.
Le modus significandi n'est pas impliqué.
Ah non, 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 juste. Le juste n'implique pas qu'il était pécheur avant. Jésus est le juste par excellence. Marie est juste par excellence. Juste n'implique pas nécessairement qu'on soit impie avant. Ça, c'est pas impliqué dans le juste.
Justifier,
ben oui, mais la grâce opère cette justification par elle-même. Parce qu'il s'agit d'une créature. Il s'agit d'une nature. Elle est justifiée. Le Christ n'est pas divin dans sa nature humaine. Vous voyez ? Donc sa nature humaine est justifiée. Oui. Elle est éminemment justifiée. Oui.
On peut passer d'un contraire à l'autre, l'état de péché.
Oui, ou bien au contraire d'un manque.
De la privation.
Oui, la privation. La nature humaine comme telle n'implique pas la grâce. Si la nature humaine, vous voyez, elle n'implique pas la grâce. Par rapport à la grâce elle-même, dire que la grâce doit être justifiée, ça n'irait pas. Parce qu'elle est cause de justification. Troisième question. On lit dans l'épître de Saint Jacques, « Tout don excellent, toute grâce parfaite vient d'en haut et descend du Père des Lumières. Mais ce qui descend par dérivation n'est reçu que partiellement et non en plénitude. Aucune créature par conséquent, pas même l'âme du Christ, ne peut posséder en plénitude les dons de la grâce. » Là, on touche quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est la question de la participation. La plénitude de la grâce accordée à l'âme du Christ doit se juger d'après la capacité de la créature et non d'après l'infinie richesse de la bonté divine. Oui, donc ça revient à bien montrer que justement, il participe à la grâce, même la nature humaine du Christ. La différence de la très sainte Trinité. On ne dira pas que la très sainte Trinité a la plénitude de grâce. Ça ne va pas. On dit la très sainte Trinité est source de grâce. Parce que la grâce implique justement le fait de la nature humaine de Dieu qui est participée. Vous ne pouvez pas dire que la très sainte Trinité a la plénitude de grâce. Mais vous dites la très sainte Trinité est source de grâce. Et vous dites l'âme du Christ a la plénitude de grâce. Ah, la plénitude de grâce, c'est la participation. Une participation parfaite. Il est maximétalé dans l'ordre de la grâce. C'est la différence entre être divin et la grâce. Oui. C'est la différence entre Dieu et la grâce. La grâce nous rend déiforme. Elle nous rend déiforme. Mais elle n'est pas Dieu. Elle participe à la nature divine. Oui.
La charité dans le cœur du Christ est nécessairement inférieure à la charité dans le Père.
Oui, l'agapé dans le verbe du reste fond. Dieu est amour. Quand vous dites Dieu est amour, vous parlez de l'agapé au sens le plus éminent qui soit, et vous ne dites pas Dieu est grâce. Quid ? Oui. Vous dites Dieu est amour, agapé. Et vous ne dites pas Dieu est grâce. Oui, pourquoi ? L'agapé, regardant la finalité, n'implique pas directement la participation.
La grâce est un mot. Quoi ? La grâce
est un mot. C'est un principe parce qu'elle j'aime. Je suis capable d'aimer. Tandis que la grâce implique le point de vue de la participation, de la nature divine. Je définis la grâce par la participation, je définis par l'agapé par la participation. Oui. Si vous voulez, pour bien comprendre ça, hein, point de vue des termes, c'est important. La grâce et l'amour divin. L'agapé. La grâce implique participation et l'amour divin n'implique pas. Et c'est pour ça que je peux dire Dieu est amour. Et je ne dis pas que Dieu est grâce.